Après deux éditions à succès, Hoche le Goût revient du 29 mai au 1er juin prochain. Une manifestation qui, comme les autres années, va célébrer la gastronomie et le patrimoine gersois avec, entre autres, le grand chef Thierry Marx qui en sera le parrain. Alors, au programme, des échanges et des collaborations entre producteurs, restaurateurs, institutionnels, avec même une soirée gastronomique, concours de cuisine, avec la participation des élèves du lycée hôtelier, etc., etc. Et pour la première fois, une partie du festival se déroulera dans un site patrimonial original, le cloître des Cordeliers. Tout le détail d'Hoche le Goût est à retrouver bien sûr sur le site internet. Je vous propose d'écouter Vincent Cassassus, il est chef de l'Hôtel de France, il est organisateur de la manifestation, il est au micro de Pauline Cazier.
Troisième édition cette année, ouais, en 2024.
Alors il y a eu déjà deux éditions et qui ont eu beaucoup de succès.
Oui, elles ont eu du succès puisqu'on a attiré du monde sur le marché. On a eu du succès sur toutes les soirées, les repas qui ont et les gasconnades qui ont été organisées. Donc oui, pour l'instant, ça, on est content de l'affluence des personnes qui viennent et de l'intérêt que ça suscite.
Une édition qui aura lieu du mercredi 29 mai au samedi 1er juin. Quel est l'objectif de cette manifestation?
Alors l'objectif, il est très simple, c'est de mettre en valeur tout ce qui touche autour à la gastronomie dans le Gers. On pense qu'on a un très joli patrimoine, des savoir-faire, et l'objectif, c'est d'essayer de le mettre en valeur à Hoche, dans la capitale du Gers, dans la capitale gasconne.
Donc pendant cette manifestation, il y aura beaucoup de restaurateurs. Expliquez-nous qui viendra.
Alors, qui viendra? Donc, ça fait intervenir beaucoup de monde, des restaurateurs. Depuis le début aussi, on travaille en collaboration avec la restauration collective, avec tous les centres de formation, donc dans le Gers, bien sûr, de la restauration. Donc, on a le lycée Pardaillan, la chambre des métiers, et aussi le lycée Saint-Christophe à Massup, qui a une section formation. Voilà. Et ensuite, on a aussi des parrains qui viennent temporairement ou tout le long de la manifestation, selon, pour apporter un peu de plus-value, apporter un savoir-faire aussi et apporter un intérêt pour tout le monde.
Alors il y aura un parrain réputé qui est Thierry Marx.
Oui, là on a de la chance cette année, il vient le mercredi, lui il va faire l'ouverture du festival et plus particulièrement pour la journée destinée aux professionnels. Là c'est très intéressant de l'avoir puisque Hoche le Goût donc réunit aussi le syndicat hôtelier, donc ça a été l'occasion, ces deux occasions réunies nous ont permis de faire venir Thierry Marx, et là il va pouvoir aussi assister au concours des gastronomes, qui est le concours organisé par le conseil départemental à destination des élèves des collèges, avec les chefs des collèges. Donc c'est super pour le festival de pouvoir avoir la présence de Thierry Marx.
Alors les gastronomes, en quoi ça consiste? Les élèves de collège préparent des menus, mais comment ça se passe?
Alors les gastronomes, c'est les élèves qui ils font c'est des équipes avec les élèves, des élèves, je crois que c'est 5e, 6e, 5e, qui s'associent avec leur chef de restauration, de cantines respectives, suivant les collèges, et donc ils préparent des recettes et ensuite ils viennent préparer leurs recettes. Donc ça se fait en deux étapes. Il y a la première partie qui est vraiment la préparation, qui est à Pardaillan à partir de 13h30, et ensuite ils viennent dresser leurs assiettes. Donc là ça va se passer au cloître des Cordeliers, et ils viennent dresser en fin d'après-midi, ils dressent leurs assiettes, et ensuite il y a le jury qui fait sa délibération sur la dégustation. Je pense que c'est une entrée, un plat, et ça sort de l'année dernière, on avait eu la chance de les avoir avec nous aussi pendant le festival, et ça sort des très jolies assiettes.
Et puis les cantines de Hoche ont la chance aussi d'avoir des menus préparés par des grands chefs.
Oui, alors les cantines, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà fait. On avait déjà fait avec la Ronde des Mousquetaires, qui est une association de cuisiniers gersois. On avait déjà fait des opérations, et il se trouve qu'on s'entend très bien avec Christian Cousier, qui était le chef et qui est toujours le chef, enfin qui est en transition. Ça se passe très bien aussi avec la nouvelle chef. Donc effectivement, on concocte un menu. Alors là, c'est les parrains qui nous ont donné leurs recettes, hein, et bon, elles sont un peu adaptées évidemment parce que c'est pas tout à fait les mêmes contraintes, et ça permet de servir rien que sur Hoche 1500 repas comme ça, qui sont estampillés Hoche le Goût avec là cette année il y a la crème de petit pois par exemple, qui c'est très très bon, et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on mange tous les jours. Les enfants qui sont peut-être pas forcément attirés par les petits pois, ben, ça va leur donner de l'occasion de les manger d'une façon différente.
Oui, c'est vrai que je vois volaille fermière du Gers, la Belle Rouge, cuite en deux façons, écrasée de pommes de terre ou friton de canard et sa crème d'ail. C'est très sophistiqué, mais donc ils n'ont peut-être pas l'habitude, mais vous, il y a des choses pédagogiques pour expliquer comment c'est préparé.
Oui, oui, oui. Alors il y a toute une petite série d'animations et un accompagnement qui se fait même le jour et puis avant dans les cantines. Et oui, on prépare. Alors après, on l'a déjà fait sur des choses encore plus, on va dire, pointues. Je me rappelle qu'il y a quelques années, on avait fait de l'agneau, par exemple, et en fait, ça s'est très bien accueilli parce que les enfants voient qu'on s'occupe d'eux et on essaye de leur faire goûter, et globalement ils goûtent et puis ils aiment ou ils aiment pas, mais ça c'est le jeu, hein, c'est le jeu, c'est... D'abord il faut goûter.
D'accord, et j'imagine qu'il ne doit pas rester grand chose dans les assiettes.
Non, ça, pour l'instant on a plutôt eu du succès dans les écoles.
Alors il y a aussi des repas gastronomiques, ce qu'on appelle la gasconade, alors qui se passera cette année au couvent des Cordeliers. Alors expliquez-nous, ça c'est un grand moment où il y a beaucoup de producteurs et de chefs qui sont réunis.
Oui, alors la gasconade, c'est l'événement, on va dire, où on accueille le plus de monde en version gastronomique, où il y a 400 personnes, on peut aller accueillir, on a accueilli les deux premières années 400 personnes, et là ça se passe donc le cloître des Cordeliers, et là c'est des chefs, donc ça se fait avec les tables du Gers, et c'est des chefs tables du Gers qui viennent préparer, donc c'est sous le format d'un cocktail, d'un grand cocktail. Alors le cloître des Cordeliers, ça va s'y prêter particulièrement, il y a plein de lieux à investir, la salle capitulaire qui a jamais été utilisé, et donc l'idée c'est de venir découvrir en fait six cuisines différentes. Alors ça se fait aussi avec Pardaillan qui vient, le lycée Pardaillan qui vient faire un petit flambage, montrer le savoir-faire des élèves, hein, et aussi aider au service et à la cuisine. Et voilà, c'est l'occasion de retrouver six chefs, des vignerons aussi, des vignerons gersois qui sont là, et c'est très festif, il y a des orchestres et on passe un bon moment comme ça le samedi à Auch.
Mais cette manifestation, c'est donc aussi, surtout, enfin entre autres, pour mettre en valeur les élèves des écoles. Alors, vous parliez de Pardaillan, qui est un lycée professionnel, entre autres. Le lycée des métiers, expliquez-nous comment vous arrivez à intégrer tous ces jeunes qui sont en formation.
Alors, déjà, globalement, les professionnels du Gers travaillent déjà avec Pardaillan et avec l'école des métiers et avec Saint-Christophe pour certains. Et donc, en fait, c'est assez facile parce que on se rend compte que que ce soit du côté de Pardaillan ou du côté de l'école des métiers, avec des contraintes différentes, parce que l'un c'est l'éducation nationale et l'autre c'est plus la chambre des métiers, c'est complètement la chambre des métiers. En fait, il y a beaucoup de dynamisme, il y a une envie de participer. Ça a été une des grosses surprises dès la première édition et qui fait d'ailleurs que Auch-le-Goût se pérennise et j'espère continuera longtemps. C'est qu'en fait, il y a vraiment eu un désir commun de tout le monde de créer cette manifestation. Donc les élèves sont contents de venir, ça se passe bien, il y a des petits concours aussi qui leur sont adressés, les professeurs jouent le jeu à fond, du coup ça permet de les mettre en avant, ça permet de passer un bon moment, ça permet de créer des liens aussi parce qu'ils sont contents de croiser Thierry Marx, de croiser Philippe Urraca, Dominique Toulouzi, William Candelon, enfin voilà, c'est pas un partenariat, c'est vraiment une co-construction en fait. Dès le départ ça s'est fait, on travaille tous ensemble pour monter ce festival.
Alors, il y a une association très importante, c'est les amis d'André Daguin, qui a été une figure importante d'Auch.
Oui, alors les amis d'André Daguin, la première édition d'Auch-le-Goût, ça avait été le thème de l'édition, c'était un hommage à André Daguin, puisqu'il nous avait quittés malheureusement l'année d'avant. Et depuis, bien sûr, il nous accompagne et c'est important d'avoir c'est très important de garder ce fil rouge parce que c'est quand même lui qui a participé grandement au développement de beaucoup de choses au niveau justement de la gastronomie au sens très large du terme, au niveau des filières, au niveau des vignerons. Donc on est content d'avoir les amis d'André Gavin avec nous. On aura même, il y a Arnaud Daguin, son fils, qui va participer au jury le samedi matin sur le concours. Il ne le sait pas encore, mais je pense qu'on va lui demander d'être parrain l'année prochaine. Mais ça, voilà, c'est très important, c'est une vraie plus-value, mais c'est pas tant pour ça, c'est vraiment un plaisir de pouvoir continuer comme ça à perpétuer la mémoire d'André Daguin.
Alors une manifestation avec beaucoup de partenaires, alors combien de temps à l'avance vous commencez à préparer, parce que c'est énormément de travail pour rassembler les producteurs gersois, pour les choisir. Dites-nous depuis combien de temps vous travaillez là-dessus ?
Ouais, d'un an sur l'autre. Alors après, on a un gros défaut dans la restauration, c'est que plus tard on fait les choses, meilleur c'est. Quand on cuit des petits pois, plus on les cuit tard, meilleur ils vont être pour le client. Donc on a tendance toujours à repousser un peu l'échéance. Donc on sait toujours qu'on a les deux derniers mois qui sont vraiment particulièrement intenses. Mais sinon, d'une année sur l'autre, déjà on commence à réfléchir au programme, à comment on va articuler les choses. Voilà, là en plus c'est quand même un festival festival qui est jeune, hein, c'est la troisième édition. Donc là, voilà, petit à petit, on espère, si ça doit se pérenniser, il faut qu'on s'organise mieux. Et on a des partenariats qui se nouent là, cette année, particulièrement avec l'UMI, donc le syndicat hôtelier, où on a un partenariat sur la partie administrative, la partie communication. Donc voilà, petit à petit, on essaie de grossir, pas trop vite, et surtout de pérenniser en essayant d'avoir une organisation qui nous permettra de grandir petit à petit.
Une édition qui aura lieu du mercredi 29 mai au samedi 1er juin. Si les gens veulent réserver, comment ils doivent faire ?
Alors, pour réserver, il y a le site Hoche le Goût. Je crois que c'est hochelegoût.fr. Je ne peux pas dire de bêtises, je n'ai pas en tête. Hein, mais c'est sur le site internet. Vous avez toutes les manières. Alors, vous avez bien sûr tout le déroulé du festival et des deux précédentes éditions aussi. Et il y a aussi, bien sûr, la billetterie. Donc, c'est tout simple. Hein, il suffit d'aller sur internet et vous avez les deux repas gastronomiques, donc le jeudi soir et le vendredi soir. La Gasconade, les inscriptions pour la Gasconade le samedi midi, et aussi pour ceux que ça peut intéresser, pour le repas plutôt professionnel du mercredi soir, ça permet, on peut s'inscrire aussi pour cette soirée-là.
Voilà, à l'instant, c'était Vincent Cassassus, chef de l'Hôtel de France. Il est organisateur de cette belle manifestation qui s'appelle Hoche le Goût. Nous retrouvons maintenant Fabien Ferrer, joli. Il est le directeur du Musée des Amériques où aura lieu une des soirées gastronomique.
Que c'est un musée qui est un peu double en quelque sorte, parce qu'il a à la fois donc des collections donc américaines très importantes, des collections précolombiennes qui constituent vraiment l'essentiel du musée, mais depuis quand même pas mal de temps, ça fait plus de 100 ans qu'on a des collections précolombiennes, d'où finalement aujourd'hui ce nom de Musée des Amériques Hoche. Mais en même temps, il y a une composante locale importante également, avec des collections depuis donc la période gallo-romaine jusqu'à la période récente, moderne, donc des collections de beaux-arts, des collections d'art et tradition populaire et des collections d'archéologie.
Alors, vous êtes venu pour parler de votre participation, de la participation du musée à la troisième édition de Hoche le Goût. Donc, c'est une bonne idée puisque vous avez voulu inclure ce thème de l'Amérique. Alors, expliquez-nous ce dont il s'agit.
Oui, ben voilà, donc on nous a proposé, donc ça fait 3 ans, effectivement, que Hoche le Goût existe, travaille sur société de la gastronomie, et on a, nous, vite fait le rapprochement avec, bien sûr, les collections précolombiennes, avec l'Amérique, puisqu'on a ici, au sein du musée, enfin, dans le jardin, en tout cas, un potager précolombien qui montre, justement, l'importance de toutes ces plantes qui sont venues d'Amérique et qui constituent aujourd'hui, là aussi, pour beaucoup, nos assiettes, nos plats, nos menus, puisque, quand on regarde de près, effectivement, entre la pomme de terre, la tomate, les courges, les haricots, même le chocolat, etc. Donc beaucoup donc de légumes proviennent donc d'Amérique, et il nous semblait intéressant justement de faire un peu ce pont entre la gastronomie et l'archéologie, et d'où cette idée de faire un menu gastronomique et de s'inscrire aussi dans ce projet donc d'Hoche le Goût. Donc voilà, donc ça s'est fait un petit peu naturellement, et donc là après, c'est vraiment les cuisiniers qui ont pris donc en quelque sorte donc le projet au vol, et on nous ont proposé cette année vraiment ce menu que je maîtrise pas non plus complètement, mais en tout cas je vais découvrir aussi certainement des choses très intéressantes.
Mais le choix des restaurateurs pour cette soirée, quel en est-il ?
C'est vraiment un choix vraiment donc lié donc à l'Amérique. Alors après, finalement, donc c'est à la fois donc le choix dans les légumes, dans les plats, dans les mêmes, mais aussi dans la façon. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des modes de cuisson qui sont aussi propres donc à l'Amérique précolombienne ou à l'Amérique en général aujourd'hui. L'importance du maïs aussi, par exemple, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait donc sans le maïs ? Donc voilà, donc c'est tout ça qui va être rassemblé au sein donc d'un menu très original. Et nous, l'idée de pouvoir faire justement ce menu au sein même du musée, c'est la première fois qu'on fait un repas qui va être vraiment dans les salles du musée, donc c'est à la fois c'est un pari, hein, parce que c'est toujours risqué, mais je trouve que ça en valait la peine, et c'est de montrer vraiment cette union donc des continents donc par l'assiette. Donc je trouve ça très intéressant.
Alors vous citez un apéritif qui sera donné dans les jardins du musée, et puis alors il faut parler aussi de l'installation de l'artiste plasticien Simon Ogade, qui est installé là depuis plusieurs mois. On peut dire un mot dessus?
Oui, parce que ça va être aussi le cadre, bien sûr. Donc, on tenait à ce que ce repas puisse se faire dans le musée, mais aussi aujourd'hui, grâce donc à cette installation magnifique de Simon Gade dans les jardins, ça donne en plus une autre dimension à ce jardin et au musée, et notamment le soir quand il va être éclairé, c'est quelque chose de magnifique. Donc, tout simplement, c'est un artiste. On a fait appel à lui l'année dernière, donc en 2023, pour une résidence, c'est-à-dire que pendant 3 mois, donc il a construit donc cette œuvre. À savoir qu'on, dans le cahier des charges, c'était créer une œuvre qui puisse prendre en compte à la fois le lieu patrimonial, mais aussi les thématiques abordées dans le musée. Mais à savoir qu'il avait vraiment donc une carte blanche. Et il nous a proposé donc ce thème qu'il appelait, donc, enfin, c'est cette sculpture, ce projet, colonie. Alors au début, c'est vrai que le terme en lui-même, colonie, bon, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat parce que. Mais justement, donc, il l'a pris sous cette forme-là. Donc, c'est une référence, bien sûr, donc, à la colonisation et comment les populations donc, occidentales ont colonisé donc, l'Amérique. Quand on parle de découverte de l'Amérique, c'est toujours aussi quelque chose qui peut donc, vexer aussi les populations autochtones. Parce qu'effectivement, de quoi on peut affirmer qu'ils ont été découverts? Non, ils existaient depuis longtemps. Mais surtout, donc, lui, il a proposé donc, une structure à la fois rigide. Donc, on a l'impression que c'est une sorte de forme d'architecture, de cloître. On ne sait pas si ça sort de terre ou justement donc ça glisse dans les entrailles de la terre. Et cette forme beaucoup plus organique qui vient coloniser cette. Donc on ne sait pas qui colonise qui. Donc voilà, donc c'est toute cette thématique autour de cela et autour un peu aussi d'un thème familier donc, chez les populations précolombiennes, c'est à savoir donc, la dualité. Donc c'est souvent ces contrastes qu'il y a entre les couleurs, les matières, les formes, voilà.
Une sculpture qui est en bois et qu'on ne peut pas rater, évidemment, quand on vient,
non, ça, je crois
vient visiter ce très beau musée. Donc, cette soirée aura lieu le vendredi 31 mai. Le repas aura lieu à côté de cette sculpture.
Il est même dans le musée, dans les salles du musée. Tout le bas du musée donc, est consacré donc, à ce repas. Donc, on va y dresser des tables. Donc, on aura bien sûr vision donc de la sculpture, on la verra. Les cuisines vont être dehors, dans les jardins, donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que la proximité avec les cuisiniers qui vont préparer, avec le restaurant, la cantine qui est juste à côté, donc il y a vraiment, ça va servir un petit peu de noyau central. Et tout ça, finalement, donc, couronné par cette magnifique installation. Donc, c'est. Bon, voilà, donc on a hâte que ça puisse se dérouler, qu'on voit un petit peu. Donc, et puis ce contact avec les cuisiniers va être très intéressant de voir comment eux s'accaparent un petit peu cette thématique. Donc, avec, finalement, chocolat, maïs.
Alors, on parle des légumes, mais il y a aussi le bœuf, qui est un animal représentatif de l'Argentine. Il sera cuisiné façon asado. Alors
là, j'avoue, ça va être une découverte pour moi aussi, parce que je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, mais je crois qu'ils sont allés vraiment chercher donc, des modes de cuisson donc, typiques. Donc je ne sais pas. Donc moi, je suis inscrit au repas aussi, et donc je découvrirai avec comme tout le monde. Mais voilà, et je pense qu'on fera aussi, c'est qu'on va faire des menus avec des objets, parce qu'il y a beaucoup d'objets donc, précolombiens qui représentent donc, des légumes. Puisque c'est quand même des éléments qui proviennent, donc il y a une forme de culte à la Pachamama, donc la terre-mère, et cette terre-mère produit donc ces aliments, et donc c'est pour ça qu'on retrouve aussi beaucoup de ces objets, ces légumes représentés donc sur les vases, sur les documents. Donc voilà, donc on va vraiment essayer d'allier donc à la fois donc le plaisir du repas, mais aussi la découverte donc des objets.
Et puis qui dit repas dit évidemment accompagnement de vin, et là je vois en effet une sélection de vins d'Amérique du Sud. Vraiment, c'est un repas préparé avec soin, vraiment.
Ah, je crois qu'il y a une vraie recherche. Ils sont vraiment allés à la recherche, donc je dis, de mets, de modes de cuisson, d'histoire. Moi, c'est ça qui m'a vraiment impressionné donc, à leur contact de ces cuisiniers, c'est que vraiment, ce sont des artisans, mais des chercheurs en même temps. Donc, ils vont vraiment donc, à la recherche, à la source même donc, des éléments pour aller. Il y a vraiment une connotation culturelle extrêmement importante dans leur préparation. Et c'est vrai qu'on est, en fin de compte, sur des métiers qui ne sont pas si étrangers les uns aux autres, puisque eux sont aussi dans la conservation d'un patrimoine, peut-être plus immatériel que le nôtre, mais en tout cas qui est très fort aussi.
Alors, je vous rappelle une dernière fois, donc le vendredi 31 mai, je crois qu'il faut, pour toutes les animations d'Hoche le Goût, il faut aller sur le site hochelegout.fr. Sur le site de la ville, tout est indiqué. Donc,
on peut réserver sans problème donc, sur le site. Donc, c'est très, très bien fait. Donc, voilà, donc, on peut sans problème réserver donc, à cette soirée-là. Sinon, il y a d'autres soirées aussi qui sont prévues. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités qui sont prévues durant ces quelques jours donc, consacrés à Hoche le Goût.
Voilà, Fabien Ferré-Joly était au micro de Pauline Cazier. Il est le directeur du Musée des Amériques où aura lieu une de ses soirées gastronomiques. Je vous rappelle que si vous voulez retrouver cette belle manifestation Hoche le goût qui se déroulera du 29 mai au 1er juin prochain, direction le site internet, vous tapez tout simplement Hoche le goût et vous trouverez bien sûr le site qui se rapportera à tout ce qui vous est proposé. Un grand merci à Pauline Cazier pour ce beau reportage en immersion.